Philippe Nanzer.
Volodymyr Zelensky a salué ce soir les résultats qu'il a qualifiés de brillants de l'attaque de drones coordonnés menée aujourd'hui par ses services contre des aérodromes militaires en Russie. Selon Kiev, une quarantaine de bombardiers stratégiques, des bombardiers utilisés pour justement bombarder les villes ukrainiennes, ont été touchés, voire détruits. Les objectifs visés sont situés jusqu'en Sibérie, c'est-à-dire à environ 4300 km de la frontière russo-ukrainienne. Le président ukrainien a par ailleurs assuré que les agents impliqués dans la préparation de l'attaque ont été exfiltrés du territoire russe à temps. Scrutin présidentiel aujourd'hui en Pologne. Selon les premières tendances, le candidat pro-Union européenne et son rival nationaliste sortent du second tour au coude à coude. Selon un sondage effectué à la sortie des urnes, l'écart est tellement infime entre les deux candidats qu'il ne permet pas encore de désigner le vainqueur. L'armée israélienne a nié avoir tiré ce matin sur des civils à proximité d'un centre d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La défense civile palestinienne, elle, affirme le contraire et fait état de plus de 30 morts ainsi que de plusieurs blessés à la suite de ces tirs israéliens. Le Suisse Philippe Lazzarini, le chef de l'UNRWA, une organisation onusienne interdite en Israël depuis le début de l'année, déplore que la distribution d'aide humanitaire à Gaza soit devenue, je cite, « un piège mortel ». Et sur le plan diplomatique, le Qatar et l'Égypte annoncent ce soir vouloir intensifier leurs efforts en vue d'une trêve. Et puis, dans une lettre commune, 56 anciens diplomates suisses se disent choqués par ce qu'ils décrivent comme le silence et la passivité de la Confédération suisse face à ce que les signataires désignent comme étant des crimes de guerre commis par Israël à Gaza. Ces diplomates exigent des mesures immédiates contre le pays hébreu. Le FC Bâle a remporté la Coupe de Suisse de football cet après-midi pour la 14e fois de son histoire. C'était au stade du Wankdorf à Berne, où Bienne n'a certes pas démérité, mais il a été battu sur le score de 4-1. Éliminé par les Biennois en demi-finale, les Lausannois du Lausanne Sport sont l'autre grand gagnant de ce premier dimanche de juin, puisque le doublé du FC Bâle, c'est-à-dire la victoire du championnat et en coupe, ouvre aux Lausannois les portes de la Conference League avec une entrée en lice dans le deuxième tour qualificatif qui commencera le 24 juillet. Et dans la foulée de leur défaite, les joueurs du FC Bienne ont été accueillis ce soir par des centaines de supporters sur la place du Général Guisan à Bienne. Ils ont ainsi fêté leur parcours, qualifié l'historique en Coupe de Suisse. Cyclisme, Simon Yates a remporté le 108e Giro en ce début de soirée. Le Britannique a triomphé avec près de 4 minutes d'avance sur le deuxième, à savoir le Mexicain Isaac Del Toro. Cette 21e et dernière étape du Tour d'Italie a été remportée au sprint par le Néerlandais Olav Kuij. Météo, la soirée et la nuit s'annoncent nuageuses et parfois et par endroits orageuses. Demain, le ciel continuera d'être couvert, toujours avec des averses, dès le matin. Au niveau des températures, le thermomètre redescendra aux alentours de 20 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 4 au 19 juillet, les rives du Léman vibreront à nouveau au son du Montre Jazz Festival. Max Richter, poète des émotions. Joe Bonamassa, maître du blues. Diane Reeves, prodigieuse bête de scène. Diana Ross, reine de la soul. Ou encore Samara Joy, époustouflante vocaliste. Pour sa 59e édition, le festival réunit les plus grands noms. Plus d'informations sur montrejazzfestival.com. Retrouvez le festival dans Le Grand Soir, du lundi au jeudi dès 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Musique d'avenir, Angelo. Bonsoir, soyez les bienvenus toutes et tous dans Musique d'avenir, une émission réalisée par Gilles Ozaman. Nous vous emmenons ce soir en balade dans les rues de Bâle. Peut-être vous en souvenez-vous, du 28 au 4 mai, la RTS avait pris ses quartiers à Bâle pour y découvrir ses artistes, ses bibliothèques, ses expositions, ses musées et ses lieux secrets. Tout cela en prélude du concours de l'Eurovision 2025. Dans Musique d'avenir, nous avons déjà suivi la percussionniste et compositrice Jeanne Larouturou, originaire de Bayonne, et qui nous a fait découvrir Bâle à travers ses lieux de prédilection. Une émission diffusée le 4 mai 2025 que vous pouvez réécouter quand bon vous semble. Ce soir, c'est la compositrice et artiste sonore Abril Padilla que nous suivrons. Une balade à Bâle avec Abril Padilla, c'est découvrir des choses inimaginables. Chaque brocante regorge de trésors et peut devenir le décor d'une comédie musicale à la Audiard. Des coupe-œufs peuvent devenir des instruments à cordes, des fouets de cuisine sont des instruments de percussion, le froissement du papier devient un douchant. Abril Padilla est compositrice, performeuse, chercheuse en anthropologie du son, franco-argentine. Elle vit à Bâle depuis 2006, elle a fait son doctorat sur la proximité de l'écoute à l'université de Strasbourg. Abril Padilla crée en 2023 une œuvre dans laquelle un bâtiment, le Werkraum Wartek PP, joue le rôle d'un véritable instrument et notamment son escalier en métal extrêmement sonore. Il faut le voir pour le croire. Depuis 1994, le bâtiment de l'ancienne brasserie Wartek est le centre d'une cohabitation d'artistes et de créateurs culturels, d'artisans, de restaurateurs, d'organisateurs, de créateurs de tous horizons. Et nous allons expérimenter ce bâtiment avec Abril Padilla, mais ce sera pour un peu plus tard. Abril Padilla vient de créer une œuvre avec le célèbre ensemble de théâtre musical allemand Les Maulwerker. Elle va nous raconter tout ça et nous emmener dans des lieux qui résonnent ou alors qu'elle va arriver à faire sonner. Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi.
Allô. Petite éclaircie à Bâle. Me voilà Oettlingerstrasse 25, le vent s'est un peu levé, on l'entend dans les micros. Et j'arrive chez Abril Padilla. Ça doit être là. Je sonne.
Allô?
Oui, Abril?
Oui, premier étage.
Ok. Jolie cage d'escalier, toute colorée.
Bonjour.
Bonjour. Mais oui, c'est joli cet immeuble. Donc là, Abril Padilla, on est dans votre bureau. Et ce n'est qu'un tout petit échantillon des objets que vous collectez. D'après ce que vous m'avez dit. Ah voilà, qu'est-ce que c'est ? Voilà la collection des... Oui, un coupe-œuf. Qui sonne très... Waouh ! Ah mais vous en avez voilà. Plein !
Alors voilà, juste ce que je voulais dire, c'est que la... ce qui me fascine, c'est la... l'inventivité humaine pour plein de domaines, la cuisine, mais d'autres, et tout ce qui est objet spécifique à quelque chose et qu'on peut détourner après. Donc,
Et ils sonnent tous un tout petit peu différemment, j'imagine. Il y a des formes différentes, plastique, métal.
Alors, a priori, les deux, ils sont jaunes et ça serait pareil.
Ouais, un peu plus grave, non? Ouais. Il faut faire attention c'est pas, que ce soit pas un coupe-doigt aussi. Ouais.
Je me dis aussi que le plastique, un jour, ça finira. Si tout va bien, le plastique finira par disparaître. Donc bah oui. C'est un peu...
C'est des objets collecteurs déjà.
Bon, non, l'idée des collections, donc, elle est fouée, bien sûr, avec toutes les...
Alors bien sûr, parce qu'on va rappeler que vous êtes spécialiste du fouet de cuisine utilisé comme instrument de musique.
Oui, donc la boîte vraiment avec toute la collection, elle est dans l'atelier. Je ne l'ai pas là. Donc,
On va y aller. Donc là, vous étiez, je vous ai interrompu, vous êtes en train d'écrire une partition et c'est... À propos du livre, vous travaillez sur les livres, c'est ça ?
Alors, je viens de créer la 12e édition des Grains de Thérapie avec une compagnie des performeuses, chanteuses, comédiennes de Strasbourg qui s'appelle Les Clandestines. C'est un ensemble qui a déjà plus de 20 ans.
Créé. C'est très joli nom.
Oui. Et c'était pas forcément tout de suite sur la frontière leur nom, mais toute la production de ces 20 dernières années parle des migrations, des quitter le pays, des allers-retours, les langues aussi, parce qu'ils sont à Strasbourg, donc la frontière avec l'allemand. Ça m'intéresse, l'alsacien. Et donc, la première édition en 2023, ça s'est passé à Casco, donc Vartec, et j'ai pris comme instrument cette grande escalier qu'on va aller.
On va aller après, hein, on va... D'accord. Et vous allez jouer de cet escalier.
Des livres, Les clandestines m'ont permis de découvrir un auteur alsacien qui est trilingue, en fait, donc français, allemand, alsacien. Il s'avère que l'alsacien, apparemment, il n'est pas trop loin du Baslerdeutsch,
du dialecte balois.
Donc, lui, il joue avec des mots, des sons, et on a parfois, quand on ne comprend pas l'alsacien, on se demande d'où elles viennent, cette langue. Alors, il y a des sonorités allemandes qui reviennent. Et il y a une rythmicité, il y a peu de mots. C'est un jeu des sons, vraiment, avec les langues. Et que le même auteur le fasse dans les trois langues, c'est très intéressant comment lui-même il passe de l'une à l'autre. Donc, André Weckmann, c'est un des textes qu'on a beaucoup utilisé à Grains Therapy. Et l'autre, c'est Gombringer.
C'est incroyable ce titre, Grains Therapy. Pourquoi Grains Therapy? Thérapie de la frontière.
C'est ça, Grenz, c'est la frontière, la limite, le bord. Ça vient de moi. Au départ, c'était un titre provisoire pour refléter d'abord les deux langues. Donc, c'est Grenz, trait d'union, thérapie, en français, donc l'accent. Et trouver un titre déjà lui-même bilingue pour pas le traduire. Donc, c'est le même dans toutes les langues. Et puis, Grenz, bah, ça sonne très bien. Et c'est quelque chose qui... Ben à la fois ça coupe et c'est Grenz, ça crée un lien.
Ouais.
D'abord c'était pour Klang Basel, mais Klang Basel, malheureusement après Covid, n'a pas continué. Donc on est au Klein Basel. Klang Basel, c'est le festival musical très associatif en fait, qui était centré sur un week-end et à côté du Rhin. Et moi je voulais faire une traversée autour du Rhin, aller de Bâle à Saint-Louis. Ça faisait 2 heures de marche ou transporter les musiciens sur des vélos cargo, etc. Donc, on l'a fait à 2023 et pas à l'extérieur, mais donc dans ces lieux magiques, parce que Casco, c'est une salle d'art et des performances à l'intérieur dans une ancienne friche, une ancienne brasserie, Vartec. Et Vartec s'appelle, c'est un espace permanent et provisoire.
Ouais.
Donc, un espace blanc très grand. Où j'avais créé en 2015 Resonance Box.
D'accord. Donc ça va être notre point culminant de la balade.
Alors, juste, je voulais dire, et puis c'est les centenaires de Eugen Gombringer, que j'ai connu grâce à la traduction de Vincent Barras, édité par Héros Limite, les constellations et les poèmes concrets. Et donc, voilà, avoir l'original en allemand, des traductions vraiment de haute qualité en français... Une poésie sonore qui se prête à la musique. Déjà, il y a peu de mots, il y a ces jeux de mots et qui vont direct à un sens très fort sur la sensation, en fait. La troisième écriture, c'est de Michel Métaille, qui a par ailleurs les bilingues. Donc,
je fais juste une aparté, mais donc il y a des livres absolument partout. Vous retournez et vous savez exactement où est chaque livre. Donc c'est un désordre très ordonné.
Alors en fait, c'est une extraction. Comme je disais, c'est un petit espace de travail. Peut-être c'est intéressant que ce soit pas trop grand. Et je renouvelle les livres, les objets en fonction des projets actuels. Donc c'est pour ça que je trouve facilement les livres parce qu'on y travaille pour Grains Therapy. Voilà, Michel Métaille qui a des tirés, donc c'est le fonctionnement des listes, des entrées, différentes entrées, sortées, etc. Donc, entrées, sortées pour la frontière, c'est extrêmement parlant.
Oui.
Et puis, elle a, encore une fois, ce bilinguisme, trouver une personne qui parle deux langues. Donc, comment elle fait ce passage, comment elle coexiste?
Ok, là, je crois qu'on a les quelques clés. Ah, un Laporello. Oui. Alors, ça, c'est quoi, ça?
Juste pour cette deuxième édition des Grains de Thérapie, on était invité par le festival Lire Notre Monde, à Strasbourg, capitale mondiale du livre. Et en fait, la thématique du livre s'est rajoutée à la frontière. Donc, en fait, j'ai exploré les différents formats des livres possibles, et notamment la forme Leporello. Alors voilà, il y a des contes, mais il y a aussi beaucoup des livres d'artistes, Leporello, et les Leporello tout blancs qu'on peut acheter pour la calligraphie. Et ça me plaisait parce que je trouve une forme très musicale. Mm-hmm. Au lieu d'être un ensemble de feuilles, ben c'est une feuille unique, dépliée, et qui a un volume, elle a une forme. Donc aussi pour ce qui est de la performance, ça nous a beaucoup apporté. Et c'était assez difficile d'écrire pour moi sur ces Leporello avec du joli papier chiffon, souvent utilisé pour des calligraphies, parce que plus le papier est beau et cher et a une texture, ben plus l'écriture, elle doit être impeccable.
Ouais.
Donc j'ai fait plein d'esquisses.
On ne peut pas faire des brouillons.
J'étais plus d'un an en train de faire d'esquisses et à me dire, est-ce que je suis prête à prendre le vrai Leporello avec ses jolis papiers chiffon?
Pas encore.
Et j'ai commencé, mais j'ai toujours pas fini. Ça s'est créé, la pièce, et on a utilisé Leporello aussi tout blanc, parce que c'était très évocateur, très vide. Oui, d'un vide, d'un relief, d'une frontière dans l'espace. Mais la sonorité, d'abord, de ces Leporello.
Comme un accordéon silencieux. Ah oui, ça c'est le beau Leporello qui est encore vierge, en fait. Hein, ouais. Non, non, il n'y a pas. Le son du Leporello.
Et pour finir, c'est vrai que le Leporello, quand on l'utilise dans un spectacle, c'est un livre collectif. Mmh. On peut l'ouvrir, on est plusieurs à le lire, à différence d'un livre unique qui est souvent destiné à une personne.
Ah voilà. Oui, c'est vrai.
Il y a longtemps, j'étais intéressée à un phénomène qui s'est produit en Amérique latine, je ne peux pas dire quand, mais minimum 20 ans, qui est la génération des imprimeries vraiment très 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 modestes. Ça veut dire des gens qui sont conscients qu'acheter des livres en Amérique latine, c'est très cher. Donc, créer des livres avec des moyens simples.
Ah oui, on voit que c'est des restes de carton.
Donc, c'est des restes de carton. C'est même pas les cartons recyclés. C'est carrément le carton qui sert à des emballages, souvent de l'alimentaire. Et dedans, il va avoir le livre avec juste une pochette. Et donc, c'est des imprimeries. Et celle-là, en Argentine, s'appelle Eloisa Cartonet. Et souvent, elles ont des noms de femmes parce que l'imprimerie est féminine. Et ça m'a fascinée. Et j'attends de faire un disque et leur commander les pochettes. Donc, un carton brut.
Un carton brut. D'accord.
Et là, j'ai trouvé un livre fait en Italie, dans les années 70. Mais c'était aussi ce carton, en fait.
Mm-hmm. Un carton qui est trop sonore. Ouais, qui sonne.
Et donc, c'est 100 recettes pour faire le riz.
Waouh! Ah oui! C'est génial!
Donc,
vous avez essayé?
Pas encore. Mais la chose intéressante, et c'est là où après, peut-être on va parler de recherche, c'est que chaque recette, bon d'abord les recettes sont courtes, elles sont en origine, donc on retrouve un peu une créole de culture, et elles sont une police différente pour s'exprimer.
Ah oui.
Je parlerai de ça parce que je me suis beaucoup intéressée à quel graphique on utilise pour les partitions de musique contemporaine, d'où ils viennent ces polices, d'où ils viennent ces formes, surtout dans les années 60, 70, comment ces compositrices, ces compositeurs se débrouillaient à décider de tout ce qui est la partition. Pas seulement l'écriture musicale, qui était en plein changement, mais aussi l'édition. C'est un lien direct avec Kagel, ouais, aussi.
Ah oui, on va parler de Maurizio Kagel, hein, ensemble, ça c'est sûr. On parlera en chemin.
Voilà. Moi, je trouve qu'il y a plus, pour le moment, dans l'art plastique, éditer des manuscrits, ou dans l'architecture, par exemple, que dans la musique. Donc, les manuscrits, on va les trouver plus dans des bibliothèques. Mmh. Et rarement, quand ça, voilà, ça vaut vraiment la peine, il y a une édition, souvent critique, des manuscrits. Mais dans la proportion des éditions qui existent pour l'art visuel, donc là, par exemple, on a des Annie Albert, vraiment son notebook, donc son travail vraiment personnel, comme les esquisses d'un peintre, qui sont ici édités quasi intégralement, en fait.
C'est donc des carrés très structurés.
Et ce qui m'intéresse au travail du crayon, c'est les qualités de frottement. Mm-hmm. Donc, on en parlera tout à l'heure.
Donc là, peut-être on décrit juste les carrés qu'on a. Là, c'est très beau, ce notebook.
Oui. Alors, pour moi, le crayonnage, c'est cette technique de poser une feuille sur une texture et avec un crayon frotté assez fort pour faire sortir le relief de la surface. Mm-hmm. Pour moi, il y a un lien direct avec la texture musicale. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé ça moi-même et quand je fais des workshops. Donc, il y a quelqu'un qui est Michel Chion, qui a tout de suite trouvé ces mots, les crayonnages, pour le travail qu'il lui faisait sur la bande magnétique, en fait. Mmh. Une action directe sur la bande, aussi par frottement. Mais dans mon cas, c'est plus comment la graphique, elle va parler aussi du geste qui a été utilisé à ce moment-là. Et ce geste a laissé des traces. Donc la force de ce frottement, la vitesse peut-être, le soin pris à des bords, par exemple, la densité que ça peut générer. Et dans le cas de cet artiste, ça paraît évident, surtout cela, elle a utilisé une feuille à carreaux.
Ouais.
Voilà, donc encore une fois, c'est ça qui me fascine, comment déjà le support de la feuille, elle est en lien avec ce qu'il faut expérimenter par l'écriture. Ouais. Donc je reviens à mon problème avec le papier chiffon, qui est cher, qui est trop beau, et il ne va pas m'inspirer la même exigence qu'une feuille à quatre toute
simple.
Crayonné ferroviaire.
Gélatéria de Bâle.
Oh oh!
Ah bah pour moi, c'est la gélatéria d'Ivoire.
Je vais venir.
Voilà. Et on est à 200 mètres du Rhin, ce qui est vraiment.
Ah oui, on voit le Rhin là, incroyable! Et la meilleure gélatéria de Bâle, c'est pas mal, c'est un bon quartier ça.
Alors, dans le Klein Basel, il y avait en tout cas, ça n'est sans compte, une grande population italienne.
Oui.
Donc peut-être d'accord. Tu as creusé. Donc, il y a énormément de petites aux plus grandes fabriques métallurgiques qui portent des noms italiens et une pasticceria très très connu, Graciela. Et donc j'ai fait en 2013 avec l'ensemble Archimboldo une pièce basée sur le menu de cette pasticceria.
Ah bon?
Donc j'ai fait un café du pomeriggio, un café de la matinée et un café du pomeriggio avec le cœur.
Ah oui.
Donc le spectacle s'appelait la Piazza Pubblica et c'était une journée dans une place. Il y a plein de choses qui s'est passé.
Et qu'est-ce que c'était que ce cœur alors?
Donc c'était un cœur semi-professionnel dirigé par Thilo Hirsch, mais c'était l'idée qu'il y a un café où il y a tout le village qui va et un autre où il n'y a personne. Donc ces cœurs mixtes, il y avait la table où il y avait une personne toute seule qui disait un café, donc il donnait une autre. Après il y a trois femmes qui demandent tratrecina.
Alors attends juste un truc, j'ai un bruit de câble.
Donc
s'il te plaît.
Semaine de la francophonie 2015.
Le microphone.
Le jardin.
Une étoile.
Collectage des mots en français dans le marché Mathéus Platz.
Le printemps.
À Bâle. Abril Padilla, 2015.
Les vacances de printemps.
J'habite à Bâle. Terre. Découvert.
Culinarium, conférence atelier animée par Victor Sodin.
Pour le potage, ils font donc, il y a déjà les pommes de terre qui sont cuites, parce que oui. Ça je l'ai déjà fait, pour d'accord. Gagner du temps. Et en fait, il faut les écraser avec l'écrase patate pour faire...
De là, c'est un peu doux et acide. C'est la combination de douceur et acidité, comme on dit. Parce qu'on a pris du miel et puis après le verjus, des raisins verts.
Il y a une composition de gras d'abord et un goût fumé, cochon. Et surtout, il y a une texture très particulière parce que comme c'est fait en tranches, ça se défait dans la bouche et ça fait comme des cerceaux qui te chatouillent la langue. Voilà. L'andouille de Guéméné.
Faire la cuisine ensemble, réfléchir sur l'histoire de ce qu'on mange, déguster ensemble, c'est un des moments clés en fait, où on peut développer des liens. Le fromage qui me parle tout de suite, il est intéressant, ça sent par exemple la cave, ou ça sent les pommes de terre, ou les pieds, ou tout.
Une pomme.
Le fromage, maintenant, c'est Sprient et Spalen, fromage du montagne. Il vient de Kantonovald. Demi-dur, c'est 5-6 mois.
Une fleur. 100
grammes, c'est 3 fois.
Bonjour,
vous parlez français un tout petit peu? Je collecte dans le marché des mots en français.
Est-ce que je peux...
De quoi?
Des mots.
Je peux dire quelque chose?
Oui.
La tolérance. C'est tout?
Alors, qu'est-ce que... Je peux donner le nom de mon chat. Elle appelle Coco Chanel. Elle vient de Colmar. C'est noir. Elle a les très, très beaux yeux verts. Je vais à Colmar pour la chercher un compagnon.
La pâte à modeler
oui, mais une fois que ce sera revenu.
Aussi, allez, peut-être faut rajouter aussi mes pommes.
Une plume.
Et après, on va faire blanchir ça dans de l'eau chaude, le concombre en bâtonnet, en ch'tebi.
Concombre ?
Oui, c'est fait. Ça c'est extraordinaire.
Ah oui ?
Oui.
Cuire.
C'est vrai, hein ? On n'a pas l'habitude.
Non.
C'est pour ça que c'est vraiment intéressant.
Oui.
Oui, on fait cuire le concombre, on fait blanchir,
alors, oui.
Et après on fait revenir le poulet.
J'écrase l'ail pour le couper plus vite, pour faire ressortir les... C'est mon papa qui m'a appris ça.
Ah.
Mon papa, il était cuisinier.
Mais je connais Mathieu Splatz.
Est-ce que
j'ai parlé?
Le week-end prochain, il faut aller là parce que c'est le berlard mort.
Oui, c'est plus grand. Il y a quatre fois. Avec du berlard coupé fin, oui. Sur du pain grillé. C'est tout simple. C'est ça.
Ok, on n'a pas de pain au chocolat. C'est que le croissant normal. Vous voulez le café normal?
le grand.
Eine
Bouteille. Das
war klar.
Le long. Les stickers. La poubelle.
J'ai réglé vos problèmes de câble.
On court souvent.
C'est vrai que c'est un lieu de rendez-vous.
Ah ouais, c'est génial. Il y a des terrasses partout, des bistrots partout. C'est très vert. Il y a plein de verdure partout. C'est magnifique ici. Alors,
le Frühling Café, c'est vraiment le rendez-vous obligé. Et voilà, la richesse des terrasses avec soleil.
Après la pluie. Où est-ce qu'on va alors? C'est où là, cette brocante?
Alors, c'est vrai que c'est un quartier plein de brocantes de toutes les sortes. Et donc, pour moi, c'est des rendez-vous assez réguliers. Soit chercher des choses spécifiques, soit un petit peu être à l'affût. On ne sait jamais ce qui va apparaître.
Une surprise. Mm-hmm.
Donc là, on a une brocante qui est un projet social, associatif. Donc, tout simplement, ouvrir des postes, ça donne l'emploi à beaucoup de personnes qui autrement n'auraient pas.
Vous m'avez dit que c'était votre brocante préférée?
Ben, c'est une des plus proches, mais c'est aussi que c'est assez bien rangé, ils sont quand même en soin. Et aussi, souvent, ça chante. Là, c'est le rayon papeterie. Voilà, on revient à tout ce qui est support papier. C'est vrai que je cherche de comment rendre les partitions pas forcément cintrées sur la feuille A4 ou B4, au niveau des formats, les textures, des choses qui peuvent devenir partitions. Celle-là, j'ai longtemps que j'hésite à l'acheter. Mais
qu'est-ce que c'est?
Et en fait, c'est un tapis, sans doute fait par quelqu'un. Enfin, c'est pas des lards. Et donc, il y a un relief, il y a un arbre qui a été brodé. Il y a un relief et je me dis que ça, c'est un super support avec des petites pommes, des petites perles. Donc, j'imagine la texture musicale qui pourrait devenir. Et ce que je cherche, c'est des supports pour le projet avec les Maulwerker. J'ai nommé les partitions tactiles.
Les Maulwerker, c'est cet ensemble berlinois qui a fait du théâtre musical et pour lesquels vous écrivez en ce moment.
Voilà, et écrire ou expérimenter ensemble beaucoup, comme préalable. Et voilà, donc on a une création de l'année dernière, soutenue par les cantons de Bâle aussi. Ça s'appelait Anfangspunkt, point de départ. Donc c'était le départ, et maintenant je fais un peu le point de finalisation.
Le point d'arrivée.
Mais le tout s'appelle point de gravité. Et en fait, c'est d'où il vient le son, d'où il vient une idée musicale, en fait, les impulsions du départ. J'imagine qu'au son, on pourrait croire des cristaux qui se cassent. Voilà. J'étais jeune étudiante et j'avais vu ce super beau documentaire des Fred Fries, Across the Border, où justement il y avait une petite séquence, pas trop longue, où il allait dans une quincaillerie. Et on les voyait chercher des différentes choses.
Et donc là, dans cette brocante, on dit broquis ici, hein. Waouh, vous tombez sur une énorme boîte dorée. C'est un trésor, c'est un livre-boîte.
Voilà, donc aussi pour le projet des livres avec Lire le Monde à Strasbourg, avec les clandestines, Grince Thérapie. Une fois, il y en avait un bois, il était vraiment très lourd. Bref, les brocantes, on trouve, ce que je disais, les inventivités, parfois la proximité des objets qu'on n'aurait pas, même on ne le rangerait pas comme ça chez soi.
Est-ce que On peut déjà un petit peu aborder votre travail sur Mauricio Kagel, parce que c'est quand même lié aux objets, non ? Un peu cet amour des objets. C'est, je ne sais pas si c'est votre amour des objets qui vous a approché de Kagel, ou c'est l'inverse, c'est Kagel qui vous a amené aux objets.
Alors, moi, je pense qu'on est vraiment beaucoup de musiciens, et même au-delà de la musique d'artistes, à être fascinés par les brocantes. Bon, ça se trouve, Kabbal, c'est vraiment... Depuis que je suis là, il y en a même des nouvelles qui apparaissent. C'est aussi cette idée de réutilisation du deuxième vie pour les objets, donc c'est extrêmement intéressant. Non, juste que Kagel, c'est peut-être une des références connues, archivées par la Fondation Paul Sachel et les musées des instruments, où il y a toute cette énorme collection d'objets. Et c'est vrai que les étagères, donc je suis allée les voir, c'est le hétéroclite, encore une fois, qu'on trouve. Et quand j'ai fait mes recherches sur Kagel, ben, il y avait des factures, des brocantes. Enfin, c'était clair qu'ils consommaient les brocantes aussi.
Donc là, on est plutôt vers les plats, les objets en métal. Alors,
ça, c'est un objet qui m'intrigue. Donc, j'en ai acheté un. C'est relativement cher pour une brocante, c'est 10 francs. C'est une chose en métal. Peut-être, Anne, tu pourrais me dire à quoi ça sert. Parce que moi, je l'ai acheté. J'ai aucune idée à quoi ça sert.
Alors, on dirait quelque chose pour faire sécher la vaisselle, mais c'est pas ça, c'est trop petit.
On va l'essayer sur le fond de...
Donc c'est, en c'est aussi en accordéon, on retrouve un leporello de métal.
Voilà, c'est très beau, ça doit être assez important parce que, j'insiste, 10 francs c'est quand même...
Oui, c'est une somme. Là, on voit les prix à côté, c'est plutôt 2, 3 francs... Ah, ça c'est de nouveau un coup-off. Il sonne bien, hein, 4 francs. Vous le prenez ?
Oui, ça oui, parce que j'en ai pas. Du coup, là, du métal et du fil de fer. Donc voilà, je contourne le plastique. Ça m'intéresse aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est très animé. Hein, c'est vraiment animé. Ah, ouais. Peut-être que les dames, ils vont se mettre à chanter, on ne sait pas. Ce que j'ai cherché les dernières années, c'était des kouglofs en métal. J'ai déjà une collection pour Rinsthérapie, parce que c'est vraiment comme des cloches. Et après, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut avoir. Donc, il y a les sons, il y a les matériaux, les formes. C'est vraiment très embêtant, j'y passe des heures. Donc, c'est chronophage parce que je vois un objet, à quoi ça peut servir. Donc, il y a toutes les connexions qui viennent en fonction du projet. Parfois, même s'il n'y a pas de projet, ça vaut la peine. Donc, il faut le prendre. Et après, il faut le stocker.
Bon, on va aller dans l'atelier dans quelques minutes. Ah, les cartes géographiques.
Cette belle carte, voilà, des reliefs avec des Seychelles vraiment petites. Nouvelles, c'est relativement cher. Hein. Donc... elles sont datées, donc si elles sont là, c'est parce que peut-être elles ne servent plus. Mais je trouve que c'est des beaux objets.
Oui, c'est vrai que c'est très beau. Une partition sur carte.
C'est ça, cette représentation du relief. On retrouve cette idée de comment représenter une texture, des plans, etc.
Des volumes.
J'en ai acheté un paquet, là, c'est bon.
Aujourd'hui, pas de carte, alors voilà. Non, d'accord, juste un coupe-œuf. On va aller payer ce coupe-œuf alors.
Voilà. D'accord.
Mauricio Kagel, Acoustica pour objets acoustiques, haut-parleurs et bandes magnétiques.
Merci, je n'en fais pas. Adieu.
Adieu. Où est-ce qu'on va?
Alors, on va à l'atelier tout droit.
D'accord. Donc l'atelier est pas très loin de l'appartement finalement. C'est pratique ça.
Donc cet atelier est partagé donc, avec Tilo Hirsch et lui il est dans la. Il a étudié à l'Escola Cantorum, il est dans la reconstruction des instruments. Donc ce qu'on va écouter, c'est un rabab. C'est un instrument arabe-andalou aujourd'hui, mais qui était déjà au Moyen-Âge. Joué, on le trouve dans les Alimignures, les Cantiques de Santa Maria par exemple.
D'accord. Ah oui, parce qu'on connaît le roubab afghan, mais il y en a plein d'autres, quoi. Parce que vous avez habité là, c'est ça? C'était votre ancien appartement.
Voilà.
Un distributeur de cigarettes au milieu de la rue. Alors ça n'existe plus.
Qui fonctionne.
Ouais, c'est fou, ça. Ah ben, c'est là, justement.
Okay. Alors là, c'était un ancien atelier qui devait avoir besoin d'un toit très, très haut.
Bonjour.
Rentrez.
Ouais, avec plaisir.
Et là, ça sépare entre musique pratique et construction des instruments.
Aïe, 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 trop bien. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un atelier. Ah, mais il y a la c'est quoi, trompe marine, comment ça s'appelle? Non, c'est quoi, c'est un...
Ça, c'est un instrument que je suis en train de restaurer, c'est un stro-violoncelle.
Ah oui, le stro-violoncelle. Oui. Ah oui, je ne connaissais que des trous stro-violon.
Oui, et c'est une idée de construire dans ce moment toute une famille des instruments, et c'était autour de 1920, et eux, ils avaient l'idée, c'est le futur de la musique, ça va être les nouveaux instruments, et tout le monde va jouer ça. Et comme c'est souvent avec cette idée de modernité, quelques années plus tard,
c'est fini, c'est
comme oublié. Et je trouve ça super intéressant, j'ai restauré ça. Ça sonne vraiment très intéressant, très fort. Et ça sort surtout ici par ce pavillon.
Ah oui, donc il y a un énorme pavillon.
Oui, il y a ce pavillon qui sort là, très loin.
Donc c'est un manche de violoncelle sur lequel il y a un pavillon de quoi?
Oui, d'aluminium.
Ouais, qui... Comme le pavillon, pas d'un tuba, mais d'un saxophone, baryton, je ne sais pas.
Oui, non. Comme un baryton, oui, c'est un petit peu ça. Une petite tuba, ça pouvait être aussi. C'est vraiment pour avoir cette directive dans les sons, c'est ça. Et on va utiliser ça pour un projet dans le musée Tanguy qui avait aussi construit des instruments mélangés, des bois, des métals, sur une pièce de Maurizio Kagel qu'on va jouer là. Un projet qu'on va faire ensemble.
D'accord, ça sera quand ça?
C'est en octobre, le 25 et 26 octobre.
25-26 octobre 2025. 2025. Ah, bah, très bien.
C'est la composition, il y en a deux, une pour enfants, donc ça s'appelle « Démo ». Et l'idée aussi des pavillons, porte-voix et du texte qui viendrait aussi des enfants, avec partenariat avec Garde des Enfants. Et puis une pièce pour phonofiddle et gramophone. Donc le gramophone avec une nouvelle, enfin ça va être gravé une nouvelle création, mais sur un vieux support.
Ah, sur un vieux support, sur une cire. Mais et phonofiddle, c'est quoi phonofiddle? C'est ça justement?
C'est un instrument similaire, c'était comme une autre marque, disons, c'est d'autres pavillons.
Ah, c'est un pavillon de gramophone?
Non, c'est aussi un pavillon comme un corps, en fait. C'est un pavillon comme ça, qui est aussi monté sur une manche de bois. J'ai les manches là-bas.
Ah, d'accord.
Mais ce n'est pas encore restauré. C'était là, le premier que j'ai fini.
Quand vous dites restauré, ça veut dire que vous partez vraiment d'instruments existants ou est-ce que vous le reconstituez?
Là, c'est vraiment des instruments que je trouve dans Internet, sur eBay ou dans des... Oui, un petit peu comme des brocantes. Cet instrument, par exemple, j'ai trouvé en Espagne, il était plus jouable, c'était comme des parties, c'était comme décollé, j'ai enlevé toutes les parties, j'ai recollé toutes les parties, et après ça résonne, j'ai remplacé certaines parties, par exemple, toutes ces parties-là qui tient la corde, tous les chevalets, j'ai recollé tous les manches, tout ça, c'était oxydé, toutes les parties métal, ça c'est un petit peu les problèmes qu'on n'a pas sur des instruments à cordes. Classique, je dirais, qu'il y a aussi des problèmes de métal, qu'il y a une oxydation, il faut nettoyer ça, il y a tous les vis qu'il faut avoir. C'est que c'est comme une autre manière de travailler les instruments, mais super intéressant, je trouve.
Là, tu peux entendre le pitch, mais là, si tu écoutes le frottement.
Ah oui, on entend. Si,
aussi, quand tu frottes seulement les chevalets, quand tu les frottes sur les chevalets.
Ah oui, c'est étonnant.
Alors qu'il n'a pas de caisse de résonance.
Non.
Ouais, il y a seulement c'est une membrane ici, c'est ça, c'est une membrane.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un hybride technologique, mm-hmm. en fait, ouais. entre tout ce qui
développé
dans le son.
C'est une idée comme une âme, un petit peu, une âme.
Qui, c'est un petit bout de bois.
Un bout de bois, comme oui. dans un violon. Et ça transmet là sur cette membrane. Et c'est pour moi aussi intéressant parce que j'ai fait aussi ce projet sur les instruments avec une table dépôt qui est aussi une membrane dans ce sens. Mmh. Et là, c'est comme pour moi la version moderne. Avant, j'avais fait ce projet à Berne sur les instruments avec table dépôt des 13e jusqu'au 16e siècle. Et là, je saute dans le 20e siècle avec une idée un petit peu similaire. Mais complètement, en même temps, complètement différente. Moi, j'aime ça, c'est comme une archéologie sonore, de retrouver des sons et voir comment ça pouvait sonner dans le 13e siècle, dans le 19e siècle. Et chaque période, il y a cette volonté d'inventer des nouvelles sons, d'écouter une nouvelle chose. Et ça me fascine. Cette phonophile, ça, c'est une membrane de cette phonophile. C'est une membrane de métal qui était super rouillée. Et là, je suis en train de faire une nouvelle membrane pour faire revivre cette son. C'est du fer avec ce métal qu'on peut fondre facilement. Ça, c'est cette rabarbe que j'avais fait mon projet de recherche à Berne, à la HKB, aussi à l'université. C'était un projet de fonds national pour reconstruire ce type d'instruments qui ont une table de peau, c'est une peau de chèvre, qui a comme un son très...
Amplifié, non?
Oui, ça amplifie, mais c'est aussi un son que souvent les gens qui viennent chez moi pour l'écouter, ils me disent « Ah, mais ça sonne oriental ». Et je trouve ça super intéressant parce que pour moi, c'est comme il y a comme une idée derrière. C'est un son qui n'est pas à nous. C'est comme pour les autres, c'est OK, mais il y a quelque chose là. Mais en même temps, je dois dire, après, c'est un son qui a été joué en Europe de 13e jusqu'au 16e siècle. Il était... très répandu. Il y a beaucoup de sources qui parlent de ces instruments, des tableaux, on les voit beaucoup. Mais pour le moment, c'est encore aussi dans la musique ancienne, c'est complètement dehors de la pratique.
De la pratique occidentale.
Oui, et pour la musique contemporaine, c'était un défi parce qu'on a tout cette, par exemple, l'héritage des cordes classiques,
ouais.
où quand même il y a une connaissance de l'instrument qui est ancrée. Donc du coup, il y a des techniques contemporaines en plus qui existent. On peut se baser ou encore chercher. Mais là, il faut comprendre déjà comment l'instrument il peut sonner, les limitations.
Oui,
par exemple, si on écoute tout de suite les pits...
Parce qu'il y a deux cordes, hein, peut-être on peut le décrire. Il n'est pas très grand, il fait quoi 60 cm? Non,
oui,
pas plus.
Un petit peu moins, je crois. 55 cm, c'est en fait comme un grand... comme un petit bateau.
Oui, un bateau grand, avec là, un manche de luth, un peu. Hein.
Oui, un petit peu une manche comme ça.
Ce manche à 90 degrés.
Oui, ça pouvait être comme un luth, mais la chose spéciale, c'est un instrument monoxyle. C'est un bloc de bois qui est creusé à l'intérieur. Toute cette partie, elle est vide. Et ça fait la caisse de résonance. Et en bas, il y a cette peau qui est comme une petite tambour, en fait. C'est comme un petit tambour où il passe les cordes.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que le son sort vraiment de cette petite rosace, rosette,
oui,
ou je ne sais pas comment on dit.
Oui, je crois que c'est surtout là. Ça, c'est comme une membrane d'une haut-parleur aussi, un petit peu.
C'est vrai.
C'est le principe que ça va très direct vers quelqu'un qui écoute.
Et il y a un côté un peu nasillard. Hein ouais, ouais.
Il y a un côté nasillard au Maroc, où ce type d'instrument, il est aussi beaucoup joué. Eux, ils disent un petit peu, c'est comme la voix de la grand-mère.
Ah.
Et ils disent... si ça manque, il manque l'âme de la musique. C'est aussi que c'est une chose très émotionnelle, je crois, aussi. Et pour moi, c'est aussi intéressant que ça, pour chanter avec ça, ça se mélange très bien.
Ah oui.
Et c'était aussi beaucoup utilisé dans ce sens. C'était chanter, jouer. Et c'est pas tellement ciblé, les sons. Il est comme large. Moi, j'aime beaucoup ce son spécial qui est complètement différente de la viole de gambe que je joue normale, où tout le monde dit oui, c'est une viole de gambe.
Donc c'est une sorte, finalement, ça devient un instrument contemporain.
Oui, c'est ça. C'était ça l'idée de pas seulement faire, dans ce projet, c'était l'idée de pas seulement faire une reconstruction historique, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette son. On a aussi joué des pièces historiques, par exemple des Cantigas de Santa Maria, mais aussi avec cette pièce d'Abril, d'essayer qu'est-ce que ça peut dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça raconte nous aujourd'hui, parce que c'est nous, les musiciens aujourd'hui, qui doivent gérer cette son. Essayer qu'est-ce que c'est possible de faire. Mmh. Oui, et on expérimente aussi, si c'est C'était tout le temps aussi avant une composition que, comme hétérophonie, on expérimente, je joue, après les demandes, mais tu peux pas faire que ça aussi, ou essayer ça. Et moi, quelquefois, je dis oui, je peux essayer. Quelquefois, je dis je sais pas. Mais on essaye différentes choses, c'est ça tout le temps, la chose intéressante. Et aussi, moi, j'apprends après des nouvelles choses sur mon instrument. Si j'essaye des choses que j'avais pas pensé avant, peut-être ça développe aussi une écoute de l'instrument.
Abril Padilla, hétérophonie 3 pour 3 roubabs et bande magnétique par l'ensemble Archimboldo. On continue notre balade. Merci beaucoup, Thilo.
Très bien. Alors,
à bientôt.
Bonne balade.
Merci. Alors, on quitte l'atelier. Au revoir. On va aller lentement au Vartec, donc où il y a la salle des casques, où il y avait Grèce Thérapie en 2023. Très bien. Et sur le chemin, on va peut-être parler de savoir comment vous avez atterri à Bâle, à Brille-Padilla. C'est possible de savoir ça?
Ben, c'était la trompette marine, en fait. J'étais au Conservatoire de Paris. Donc, j'ai une résidence à Villisau, où il y avait un musée d'instruments. Et c'était un premier projet de faire une pièce électroacoustique mixte de trompette marine. Et
donc, c'est comme ça que vous êtes allé à Bâle. Vous avez rencontré Thilo Hirsch. Et c'est comme ça que vous êtes resté.
Oui. Et parallèlement, la Music Academy, où il y avait un compositeur qui m'intéressait aussi pour la composition, mais aussi toute l'expérience d'orchestration de musique contemporaine, qui était Eric Ogna, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Et je parlais pas beaucoup d'allemand, donc ça me permettait quand même de bénéficier des cours. Et puis il y a un environnement de création sonore ici à Bâle, au studio électronique, qui est ce studio d'électroacoustique formidable, avec pas beaucoup d'étudiants, mais une disponibilité des salles de travail, des matériels d'enregistrement. Et j'ai trouvé, à différence des classes d'électroacoustique à Paris, qu'il y avait le temps de travailler, on était moins stressé et une certaine complicité aussi entre l'audio design, l'électroacoustique, les instrumentistes de l'improvisation, de musique ancienne. J'ai trouvé tout cet conglomérat vraiment intéressant.
Très riche. Juste quelques mots sur Eric Ogna, peut-être, pour les gens qui ne le connaissent pas.
C'est rare de trouver dans une personne déjà la générosité, l'extrême professionnalisme sur les instruments, enfin les instruments acoustiques, réunis aussi avec une connaissance profonde de l'électroacoustique, de la direction instrumentale, parce que c'était un brillant directeur pour les ensembles de musique contemporaine, et avec une dose d'humour vraiment intéressante. Donc, vraiment, on ne pouvait pas demander
mieux. Et donc, c'est ça qui vous a incité à rester là et à étudier donc, auprès de lui.
Et c'était développé vraiment ici par la proximité de tout ce qui était les performances au niveau musique contemporaine et les studios électroniques, déjà créés depuis longtemps. Une focalisation sur les musiques mixtes. Donc, quelle était la confluence de l'électroacoustique et des instruments acoustiques? Alors qu'à Paris, j'avais plutôt fait musique concrète, mais on n'avait pas beaucoup à faire à des instruments, en fait.
D'accord. Et ça fait combien de temps que vous habitez à Bâle?
Là, ça va faire 15 ans.
15 ans.
Alors, pourquoi je suis restée? Après, très vite, j'ai vu qu'il y avait une densité, une proportion entre l'espace physique et la quantité de personnes. On les sentait dans la rue, en allant à la poste. On avait une place en tant qu'être humain déjà, une place autour que j'avais pas à Paris, par exemple.
Ah, oui, d'accord. Une bonne densité, un bon rapport entre espace et personne. C'est drôle, ça.
Oui, et on peut se rajouter une densité un peu exceptionnelle sur l'offre culturelle, que ce soit les musées, les bibliothèques. L'implication, la proximité de la nature, le Rhin, les bords du Rhin, les parcs, la montagne dans une heure seulement des trains.
Enfin, les concerts.
Voilà. Et à ça rajouter la vie de quartier, où il y avait la possibilité de dialoguer avec des gens qui peut-être n'avaient absolument rien à voir avec mon monde de musique. Et c'est ça qui me nourrissait aussi. Et puis autre chose, c'est une ville vraiment très cosmopolite, surtout autour de la Music Academy, où il y a des étudiants qui viennent de partout. Et du coup, il y a cette sensation de ne pas trop savoir où on est.
Ah oui.
Et après, quand j'ai eu ma fille, ça confirmait cela.